Bonjour à tous et bienvenue sur Vintage Motors, votre chronique automoto qui carbure à la passion.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vintage Motors, là où les voitures ne sont pas juste des machines, mais des chapitres d'histoire qui sentent l'essence et la passion. La dernière fois, on a laissé Volkswagen dans une situation délicate. Une marque sauvée par miracle après la guerre, une coccinelle devenue icône mondiale, un combi transformé en symbole de liberté, mais à la fin des années 60, le vent tourne. La coccinelle est attachante, mais elle commence à ressembler à un vieux poste radio à côté d'une chaîne hi-fi moderne. Volkswagen doit évoluer, ou mourir une deuxième fois. Aujourd'hui, on parle de la renaissance et d'un nom qui va tout changer. Golf. La fin d'un monde, le moteur arrière touche ses limites. À la fin des années 60, le concept coccinelle commence à montrer ses limites. Moteur arrière refroidi par air, architecture ancienne, tenue de route, disons, vivante. Pendant ce temps-là, la concurrence évolue. Les voitures modernes adoptent un moteur à l'avant, une traction avant, plus d'espace intérieur et surtout plus de sécurité. Volkswagen, de son côté, s'accroche à sa recette historique. Le résultat, les ventes ralentissent et les finances tremblent. La coccinelle est mythique, mais un mythe ne suffit pas à payer les salaires. Le virage stratégique. Volkswagen change tout. Début des années 70, Volkswagen prend une décision radicale. Abandonner progressivement le moteur arrière. C'est presque un sacrilège. C'est comme si Porsche décidait de faire un diesel monospace. Ah non, pardon. Volkswagen rachète Auto Union, futur Audi, et récupère une chose précieuse. Le savoir-faire en traction avant et moteur à eau. La révolution est en marche. Et puis arrive 1974. Une nouvelle voiture est présentée. Compacte, moderne, anguleuse. Rien à voir avec les courbes rondes de la coccinelle. Son nom, la Golf. Design signé Giorgetto Giugiaro. Ligne nette, hayon pratique, moteur à l'avant, traction avant. C'est une rupture totale. Volkswagen vient de tourner la page de son passé technique. Et ça, c'est un pari énorme. Le coup de génie, la Golf GTI. 1976. Quelqu'un chez Volkswagen a une idée brillante. Presque une blague au départ. Et si on mettait un moteur plus puissant dans la petite Golf? Au départ, le projet est interne. Presque discret. Une petite série. 5000 exemplaires maximum. Personne n'imagine ce qui va se passer. La Golf GTI naît. 110 chevaux, un poids plume, un châssis vif, une calandre cerclée de rouge, un petit levier de vitesse en forme de balle de golf, et soudain, les jeunes conducteurs découvrent qu'on peut avoir une voiture pratique, fiable, utilisable tous les jours, et surtout fun à conduire. La GTI invente un segment, la hot hatch, et là, c'est l'explosion. Volkswagen devient cool, mais sérieusement cool. La Golf GTI, ce n'est pas une muscle car. Ce n'est pas une Ferrari, mais elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Elle est accessible. Elle devient la voiture du jeune cadre dynamique, du passionné raisonnable, du père de famille un peu pressé et de celui qui veut se faire plaisir sans vendre un rein. Volkswagen réussit l'équilibre parfait. Image sérieuse, plus une petite touche rebelle. Et ça, ça marche. C'est une expansion mondiale. Dans les années 80 et 90, Volkswagen déroule. Golf 2, plus grande, plus solide et toujours plus moderne. La marque se structure. Elle améliore la qualité perçue, la sécurité et la finition. Volkswagen devient synonyme de sérieux allemand. Une voiture Volkswagen, c'est rassurant. Ça ne fait pas rêver comme une italienne, certes. Mais ça ne te laisse pas au bord de la route non plus. Enfin, en théorie. performance et diversification. Volkswagen ne s'arrête pas à la GTI. Arrive la Golf VR6, la transmission synchro et les premières déclinaisons sportives plus musclées. La marque comprend qu'elle peut jouer sur deux tableaux, la voiture rationnelle et la voiture passion. Et ça, c'est extrêmement intelligent. Années 90, Volkswagen devient un empire. Volkswagen ne veut plus seulement être un constructeur, elle veut être un groupe. Elle prend le contrôle et développe Audi, Seat et Skoda. La stratégie est claire, couvrir tous les segments, du populaire au premium. Volkswagen passe du statut de marque survivante à celui de puissance industrielle européenne. Quand Volkswagen commence à jouer dans la cour des très grands, dans les années 90 et au début des années 2000, Volkswagen ne veut plus être simplement une marque sérieuse. Elle veut impressionner. Et là, on entre dans une période fascinante, parce que Volkswagen commence à faire des choses inattendues. La Golf devient une référence européenne. Mais Volkswagen ne s'arrête pas là. Elle lance la Passat plus haut de gamme. Elle soigne les finitions et elle améliore les matériaux. On commence à entendre une phrase incroyable dans les concessions. C'est presque du Audi, mais moins cher. Et ça, stratégiquement, c'est redoutable. Volkswagen joue sur deux tableaux, une qualité premium et un prix encore accessible. La marque devient le choix rationnel, chic. Volkswagen, à cette époque, est obsédée par une chose, la maîtrise technique. Elle développe alors des moteurs TDI ultra efficaces, des moteurs VR6 compacts, des transmissions innovantes et des plateformes partagées intelligemment. Le TDI devient un argument massue. Consommation basse, couple élevé, longévité impressionnante. À l'époque, rouler un TDI, c'est presque un badge d'honneur. Tu consommes moins que ton voisin en essence et tu fais 1000 km avec un plein. Bon, c'est sûr, ça claque un peu à froid, mais on ne peut pas tout avoir. Et puis, Volkswagen commence à faire des choses totalement irrationnelles. Parce que quand on a de l'argent, on s'amuse. Ils mettent un W8 dans une Passat. Oui, oui, une Passat. Comme si quelqu'un s'était dit, et si on cachait un moteur de limousine sous une voiture de père de famille? Puis arrive la Golf R32. Un VR6 dans une compacte, un son rock et une transmission intégrale. Et là, Volkswagen ne rigole plus. Mais le sommet, le vrai sommet, c'est la Phaeton. Au début des années 2000, le patron du groupe a une idée folle. On va construire une berline qui sera meilleure qu'une Mercedes classe S. Rien que ça. Volkswagen construit une usine en verre à Dresde. La Glaserne Manufacture. Un bâtiment plus proche d'un musée que d'une chaîne de montagnes. La Phaeton est ultra luxueuse, technologiquement avancée, silencieuse et puissante. Elle peut rouler à 300 km/h en silence total et maintenir 22 degrés à l'intérieur, même à 50 degrés dehors. Le problème, il y a un logo Volkswagen sur le capot. Et là, le client hésite. Parce que mettre 90 000 euros dans une Volkswagen, psychologiquement, ça coince. La Phaeton est brillante, mais commercialement compliqué. Volkswagen veut tout dominer. À cette époque, le groupe Volkswagen devient gigantesque. Audi monte en gamme, Skoda devient la surprise qualité-prix et Seat joue la carte sportive. Et Volkswagen, au centre, pilote l'ensemble. La marque veut devenir numéro 1 mondial. Numéro 1 en vente, numéro 1 en technologie et numéro 1 en image. Et elle y arrive. Les Golf s'arrachent, les TDI dominent l'Europe et les finitions impressionnent. Volkswagen devient presque intouchable. Mais plus une entreprise grandit, plus la pression augmente. Plus les normes deviennent strictes, plus les objectifs sont élevés et plus les chiffres doivent être parfaits. Et dans une machine industrielle de cette taille, la moindre décision a un impact colossal. Volkswagen est au sommet, respectée, puissante, ultra organisée. Peut-être trop organisée. Parce que parfois, quand on veut être parfait sur le papier, on commence à tricher avec la réalité. Volkswagen devient une machine parfaitement huilée. Peut-être trop parfaitement huilée. Car dans le prochain épisode, on parlera d'un mot qui a fait trembler la planète automobile. Un mot qui commence par diesel et qui finit par gate. Dans cet épisode, on a vu comment Volkswagen a failli disparaître, comment elle a abandonné son moteur arrière mythique, comment la Golf a sauvé la marque, comment la GTI a créé une légende et comment Volkswagen est devenu un géant mondial. La petite voiture du peuple est devenue la référence européenne. Mais quand on devient un géant, on peut aussi tomber de très très haut. Et dans le prochain épisode de Vintage Motors, on parlera de gloire, de scandale, de réinvention et de l'avenir électrique de Volkswagen. Restez branchés et surtout n'oubliez pas, dans Vintage Motors, on ne parle pas que des voitures, on raconte aussi leur ascension. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, restez prudents.
Retrouvez-moi chaque semaine sur Altitude FM pour démarrer du bon pied et à fond la caisse.